David Servenay, bonjour.
Bonjour.
Quel a été le rôle présumé de Félicien Kabouga pendant le génocide?
Alors, c'est un rôle qui est assez important parce que Félicien Kabouga a la particularité d'avoir été un homme d'affaires extrêmement prospère dès le tournant du début des années 90. Et il a, dès cette période, été impliqué de manière très active dans les activités de ce qu'on a appelé la CASU, donc la petite maison en Kinyarwanda, c'est-à-dire le cercle des extrémistes qui étaient rassemblés autour d'Agathe Kanziga, donc Madame Habyarimana. Et à ce titre, il a joué le rôle de financier du génocide. C'est-à-dire que dès 1991, par exemple, au moment où les milices interahamwe sont mises en place par le MRND, par le parti au pouvoir, Félicien Kabouga finance la mise en place de ces milices. Et on va retrouver ce rôle de Félicien Kabouga tout au long des années 90 et jusqu'en 1994, ce rôle de préparation de la logistique et des moyens qu'il faut pour mener ce génocide. Par exemple, entre la fin 1993 et le début 1994, ce sont ces sociétés qui font importer des dizaines de milliers de machettes d'origine chinoise, donc il les commande. Il y a un lot notamment de 50 000 machettes qui a été documenté pour être distribué à ces fameuses milices interahamwe. Et c'est également lui qui va être l'artisan du financement de la radio-télévision libre des Mille Collines, qui est créée en 1993, donc un an à peu près avant le génocide.
Et en mai 1994, il crée un fonds de défense nationale, c'est-à-dire un fonds pour financer les activités du régime génocidaire. Mais concrètement, entre avril et juin 1994, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a distribué?
Alors, assez rapidement, en fait, les forces armées rwandaises se retrouvent confrontées à une pénurie d'armes et de munitions. Et c'est la raison pour laquelle Kabouga est sollicité en tant qu'homme d'affaires, mais aussi pour sa connaissance des circuits financiers internationaux, pour créer ce fameux fonds de défense nationale qui doit servir normalement à faire des achats d'armes. Et c'est très important aussi parce qu'il y a aussi un certain nombre d'unités militaires qui participent au massacre, qui souvent d'ailleurs les initient. Or, ces gens-là ont besoin d'armes et de munitions et de plus en plus, et ils n'arrivent pas à en trouver, notamment parce que l'ONU, à partir de la mi-mai 1994, décrète un embargo sur les livraisons d'armes. Et donc, à ce moment-là, Kabouga, lui, doit activer les circuits internationaux, ses contacts dans les banques, et notamment dans un certain nombre de banques européennes, pour que ces achats d'armes puissent se faire. Et c'est à ça qu'il va servir à ce moment-là.
Après la chute du régime génocidaire, Félicien Kabouga a acheté la protection notamment du président Arap Moi et s'est installé à Nairobi. Est-ce qu'il y est resté tranquille pendant plusieurs années ou est-ce qu'il a continué depuis le Kenya son combat contre les Tutsis du Rwanda?
Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Félicien Kabouga est resté au Kenya au moins jusqu'en 2002, c'est-à-dire au départ du président Arap Moi. Et après le Kenya, il y a plusieurs traces de lui en Europe. Voilà. Il est évident que pendant toute cette cavale qui aura duré 26 ans, Félicien Kabouga reste très proche des milieux génocidaires en exil et que de par les moyens dont il dispose, puisqu'on sait aussi qu'il a pu mettre pas mal d'argent de côté dans des banques en Europe, il est assez actif. On a par exemple dit, sans qu'il y ait de preuves de cela, qu'il payait lui-même les avocats qui étaient utilisés par les génocidaires qui avaient à avoir recours à ce genre de personnes.
À partir de 1997, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui, mais il a continué à circuler entre l'Afrique et l'Europe de l'Ouest. Il est même venu se faire soigner en Allemagne en 2007. Comment se fait-il qu'il ait échappé si longtemps à toute arrestation?
Il a eu des moyens, on l'a dit, il avait pas mal d'argent, et puis il a eu de la chance aussi, Félicien Kabouga, d'une certaine manière, notamment, vous venez d'y faire référence, en Allemagne en 2007. Les policiers ont failli l'arrêter chez son gendre Augustin Ngarabat Wiré, qu'ils vont arrêter. Et en fait, à ce moment-là, on pense aujourd'hui que les policiers l'ont raté de très très peu, donc il a pu fuir. Et à chaque fois, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il était protégé, y compris par ses enfants, puisque la plupart de ses enfants vivent aujourd'hui en exil en Europe et notamment en France. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu s'en sortir. Il est certain qu'il a bénéficié aussi d'autres membres que ceux de sa famille, mais qui sont dans les milieux génocidaires en exil.
A-t-il bénéficié de protection politique, notamment en France?
Alors, c'est assez vraisemblable parce qu'il faut quand même se souvenir que le 12 avril 1994, donc quelques jours après l'attentat contre le Falcon du président Habyarimana, toute la famille de Félicien Kabouga est évacuée par un vol militaire français et sur ordre de l'Élysée de François Mitterrand. Donc, il fait partie des personnes qui ont été protégées à ce moment-là. Kabouga, pendant toute cette période, est suivi notamment par les services de renseignement. On sait assez bien ce qu'il fait et donc si on n'a pas voulu l'arrêter à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait un hasard. De même qu'il n'est vraisemblablement pas tout à fait un hasard s'il a été arrêté aujourd'hui par des gendarmes français.
Félicien Kabouga était-il dépositaire de secrets qu'il ne fallait pas faire connaître?
C'est possible. Il y a de fortes interrogations qui subsistent autour du rôle qu'il aurait joué dans les les circuits visant à détourner la coopération internationale. Pour vous résumer les choses, avant le génocide, le pouvoir de Kigali met en place un certain nombre de dispositifs qui consistent à détourner l'aide fournie par la communauté internationale, la Banque mondiale, le FMI, pour acheter des armes, pour entretenir les efforts de défense. Kabuga joue un rôle dans ces mécanismes, encore une fois parce qu'il a la connaissance des circuits financiers internationaux. Et là, sans doute a-t-il encore quelques secrets derrière lui sur la complaisance à minima dont ces grands organismes ont fait l'objet à cette époque.
Et peut-il éclairer aussi les zones d'ombre sur le jeu politique de la France entre avril et juin 1994 par rapport au Rwanda ?
Oui, c'est vraisemblable parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui est très bien informé, qui est au cœur du pouvoir, qui de par ses relais familiaux a accès à des sphères assez différentes, mais qui tout au fond témoigne de ce soutien que la France a apporté au gouvernement qui est devenu celui du génocide à partir d'avril 94. Donc oui, on peut supposer qu'il a encore un certain nombre de secrets devant lui.
Notamment par rapport à Paul Baril, l'ancien super gendarme français.
Alors effectivement, ça fait partie des fils que les enquêteurs pourraient tirer, puisque par le biais de son gendre, donc Fabien Singaillé, donc cet espion du régime de Kigali basé en Suisse, Fabien Singaillé a été en lien direct avec Paul Baril. Et on sait que Paul Baril a fourni de l'assistance, a été contacté aussi pour fournir des armes en plein génocide, et a vraisemblablement été présent au Rwanda pendant le génocide avec ses hommes. Donc peut-être a-t-il encore des détails à révéler sur certains aspects de cette opération qu'on ignore encore.
On sait maintenant que depuis quelques années, il se cachait dans un immeuble de la région parisienne où il vivait avec l'un de ses enfants. Comment les enquêteurs français ont-ils fini par le débusquer ?
Alors, grâce à la coopération internationale, en fait, au départ, c'est une information du mécanisme résiduel du tribunal pénal international sur le Rwanda qui a sonné l'alerte et qui a mis dans la boucle principalement trois polices, donc la police française, les policiers anglais et les policiers belges. Alors, en France, ce sont des gendarmes qui opèrent et qui dirigent l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Et c'est eux qui ont mené l'enquête et qui, sur la base de ce premier renseignement, disant qu'il était possible que Félicien Kabuga soit réfugié en France, ont commencé leur enquête et tout particulièrement autour de cette commune d'Anières à l'ouest de la banlieue parisienne. Et ils ont fait là un travail assez classique d'enquête, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à poser des écoutes, à géolocaliser les détenteurs de ces téléphones, à faire aussi un certain nombre de réquisitions bancaires parce que, encore une fois, on ne peut pas être en cavale sans recourir à un certain nombre de moyens, donc à suivre la piste de l'argent. Et en faisant tout ce travail, ils ont réussi à localiser donc un appartement où vraisemblablement pouvait se cacher Félicien Kabuga. Mais un des enquêteurs nous a glissé que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils ont enfoncé la porte de cet appartement samedi au petit matin, ils n'étaient pas du tout sûrs de trouver Félicien Kabuga dans ces lieux. Donc il est vraisemblable qu'ils ont eu aussi un petit peu de chance, en tout cas plus de chance que n'en avaient eu les policiers allemands il y a quelques années.
Et peut-être que le confinement anti-coronavirus a aidé.
Peut-être. Je vous avoue que là, je n'ai pas la moindre idée par rapport à cet élément-là.
Dans les prochaines heures, Félicien Kabuga doit comparaître devant la chambre des mises en accusation du tribunal de Paris. Il va sans doute y contester et son arrestation et son transfert à La Haye. Est-ce qu'il a la moindre chance de succès ?
Non, c'est assez peu vraisemblable parce que la procédure dans laquelle il a été arrêté émane de la justice internationale. Donc logiquement, c'est à la justice internationale qu'il doit répondre. Cela dit, il y a un élément intéressant, c'est que dans l'ensemble des enquêtes qui sont actuellement instruites auprès du pôle génocide du tribunal de Paris, il y en a une qui concerne la BNP Paribas qui aurait servi de relais pour des achats d'armes. Et dans cette histoire, Kabuga a joué un rôle. Donc il n'est pas impossible que les juges qui mènent cette instruction demandent à entendre Félicien Kabuga au titre de l'entraide pénale internationale. Mais il est assez vraisemblable que la chambre de l'instruction qui doit se réunir mercredi prenne la décision de l'extrader, même si les défenseurs de Félicien Kabuga demandent à ce que cette décision ne soit pas exécutée.
Quels sont les derniers grands criminels du génocide de 94 qui courent toujours aujourd'hui, David Servan?
Alors on sait qu'il y a l'ancien responsable de la garde présidentielle qui est toujours en fuite, mais parmi ceux qu'on a appelés les cerveaux du génocide, Félicien Kabuga était vraiment le dernier gros poisson qui était encore en liberté.
Et que penser d'Agathe Abiarimana, la veuve de l'ancien président qui habite toujours en France et dont l'extradition a été refusée par la justice française ?
C'est toujours le même problème. Son statut est particulièrement flou et problématique puisque effectivement, on peut penser qu'elle aurait dû faire l'objet de poursuites, mais elle fait l'objet d'une protection de l'État français depuis 26 ans maintenant. Et l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a quand même changé un certain nombre de choses hein, dans l'approche qu'a Paris de toute cette question, n'a pas modifié ce point-là. Et on peut considérer aujourd'hui qu'il est assez peu vraisemblable que ça évolue.
Est-ce que l'arrestation de Félicien Kabouga aurait été possible sous Chirac, sous Sarkozy ou sous Hollande?
C'est assez peu vraisemblable, notamment parce que Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, a adopté une vision des choses qui est quand même assez différente de celle de ses prédécesseurs. Il veut normaliser les relations avec Kigali.
Oui, mais la création du pôle crime contre l'humanité au tribunal de Paris, elle date de 2012.
Oui, tout à fait, mais le temps que tout ça se mette en place, que les enquêtes puissent déboucher, ça a pris quand même un certain temps. Et d'un point de vue politique, Emmanuel Macron, notamment en créant cette commission d'historiens l'an dernier, a fait quelques pas en avant. Et puis on sait aussi qu'il a rencontré à plusieurs reprises le président Kagame et que les deux chefs d'État sont décidés à essayer de tourner la page, en quelque sorte, sur cette période.
David Servanet, merci.